BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom sur BFM Business. Aujourd'hui, on recevra Hervé Brossard, c'est le nouveau chairman pour l'Europe de Seedly Paris. Il viendra nous parler de sa feuille de route dans cette agence un peu particulière. On s'intéressera aussi à la communication des banques. On en parlera avec Cécile Riffard, la directrice de la communication et de la marque La Banque Postale, et Baudouin Chopin de Janvry, le directeur conseil industrie financière de Deloitte. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Anaïs Lançon, c'est la directrice de la communication et de la marque Groupe RATP. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Et comme chaque semaine, on retrouve Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Charlotte Brécard de la rédaction de CB News également.
Bonjour Aurélie.
Alors Charlotte, vous avez retenu cette semaine Google qui va faire appel de l'amende de 50 millions d'euros que lui a infligé la CNIL.
Absolument, la firme a décidé de saisir le Conseil d'État pour faire valoir le travail réalisé, je cite, d'arrache-pied pour créer un processus de consentement RGPD qui soit le plus simple et le plus transparent possible pour les annonces personnalisées. Le communiqué met en avant également les craintes qu'auraient les dirigeants de Google quant aux conséquences que cette décision pourrait avoir sur à la fois les sociétés éditrices, créatrices de contenu original, mais aussi les sociétés de technologie. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que cette sanction record aurait pu être encore plus élevée puisque la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut infliger une sanction qui est égale à 4% du chiffre d'affaires d'une entreprise qui manquerait à ses obligations en termes de protection des données, puisque c'est pour ça que Google a été inquiété, et que cette somme atteindrait les 4 milliards d'euros en ce qui concerne Google.
Effectivement, on en est encore loin. Google que l'on retrouve justement dans le classement des marques qui ont fait le plus parler d'elle l'année dernière.
Oui, Brainwatch, la plateforme de social listening, vient de livrer son palmarès des marques qui ont été le plus citées, le plus mentionnées sur les réseaux sociaux, et on retrouve Google en 9e place. Alors sur la première marche du podium, on retrouve Nike, la marque à la virgule, qui a choisi comme ambassadeur de son iconique Just Do It, le footballeur américain Copernic. Alors Copernic, qui avait, rappelons-le, refusé de se lever pendant l'hymne américain pour protester contre les violences policières, un choix qui a fait polémique, qui aurait fait le jeu des ventes de l'équipementier sportif et qui a en tout cas fait l'objet de plus de 8 millions de mentions sur les réseaux l'an dernier. Viennent ensuite BTS, un groupe pop coréen qui s'est associé à l'UNICEF et est intervenu à l'ONU pour promouvoir l'accès à l'emploi et à l'éducation des jeunes. Sur la troisième marche du podium, Sotheby avec la fameuse vente de la fille au ballon de Banksy.
Alors, en ce moment, c'est une toute autre marque là qui fait parler d'elle aux États-Unis et elle s'appelle Aeromexico, Charlotte.
Oui, en plein blocage budgétaire de l'administration américaine, c'est une campagne de la compagnie Aeromexico qui fait le buzz outre-Atlantique. L'idée de cette campagne, c'est d'inciter les Américains réticents à voyager au Mexique en leur offrant des taux de réduction qui équivalent à leur part d'hérédité mexicaine. Un taux qui est rendu public aux Américains à travers une étude ADN qui a pu ainsi informer plus de 50% des Américains concernés du fait qu'ils avaient en effet du sang mexicain dans les veines. Ce qui est amusant, c'est que cette campagne avait été conçue 6 mois plus tôt et qu'elle était passée jusque-là totalement inaperçue.
Frédéric, c'est pour le moins original, là, cette campagne.
Oui, ça, il faut être américain pour faire ça. D'abord, il faut quand même être assez libre sur l'utilisation des tests ADN. Et puis, c'est vrai, mais c'est ce qu'on disait d'ailleurs à propos de la campagne Nike. Aujourd'hui, les annonceurs ont besoin de revenir dans la réalité pour se faire entendre et donc dans la réalité, y compris politique, dans ce pays simple comme c'est les États-Unis.
Effectivement. Allez, autre lieu, autre beurre. En France, Charlotte, vous avez retenu que le musée d'Orsay mise sur Van Gogh, mais alors pour séduire les enfants.
Oui, depuis le début de la semaine, les Parisiens ont pu ainsi découvrir le visage de Van Gogh lorsqu'il était enfant, ou plutôt celui que le peintre à l'oreille cassée aurait pu peindre s'il avait tiré son autoportrait enfant. En effet, ce chef-d'œuvre de la collection du musée d'Orsay est chaque année visité par des millions et des millions de voyageurs du monde, auxquels la nouvelle présidente de l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie aimerait bien voir s'ajouter les enfants. Une campagne imaginée par l'agence Madame Bovary qui est donc signée Orsay et l'Orangerie, ce n'est pas que pour les grands.
Prenez-en bonne note. Merci Charlotte Brica.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Hervé Brossard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le nouveau chairman pour l'Europe de Seedly Paris. Vous avez passé 40 ans chez DDB et Omnicom.
Et là,
vous vous retrouvez chez Seedly Paris, qu'on connaît pas forcément, Frédéric. C'est une filiale d'un groupe japonais. Un groupe japonais qui s'appelle Akuodo DY Holdings. Ça doit vous changer sérieusement, non?
Pas du tout.
Non?
Pas du tout. Puisque d'abord, c'est une agence de création internationale. Donc, c'est trois mots que je connais à peu près bien.
Ouais.
Ce qui change, c'est que ils ont une présentation, une manière personnelle de faire ce métier qui est tout à fait nouvelle, mais que je connaissais quand même, parce que elle est dirigée, cette agence parisienne notamment, par deux anciens DDB que je connais bien, mais qui ont lancé Seedly Paris il y a maintenant 8 ans ou quelque chose comme ça, et que ce sont deux personnes que j'aime beaucoup, et que d'une certaine manière, dès qu'ils ont ouvert il y a 8 ans ou 10 ans, que j'étais un petit peu dans l'ombre, je leur ai donné 2-3 avis, je vais pas risquer le conseil, mais je les ai toujours suivis très près, d'abord parce que j'aimais le côté entrepreneurial de l'affaire,
ouais.
Et que franchement, leur positionnement, ce qui s'appelle le collectif de Seedly, est un sujet assez unique et qui m'intéresse beaucoup. Donc j'ai eu envie de creuser un petit peu tout ça avec eux.
Alors, c'est pour ça que vous avez continué dans la pub, parce qu'après 40 ans à la tête d'une firme comme Omnicom DDB, vous auriez pu dire c'est bon, je fais autre chose, quoi.
Alors oui, j'aurais pu dire ça, et je ne m'interdis pas de le faire un jour, mais pas tout de suite, si vous voulez bien. D'abord parce que la passion est intacte et que je viens de passer quand même là également 7-8 ans plutôt proche des médias, de la révolution digitale et toutes ces choses-là.
Ouais.
Donc je me suis dit avec beaucoup d'humilité que mon bagage média et international pouvait peut-être leur être utile. Et ils ont eu la gentillesse, ces deux garçons, donc Johan et Sylvain, de me faire appel, ainsi que leur patron et actionnaire japonais et canadien. Parce qu'au départ, Seedly est une société très importante à Montréal et à Toronto, mais la maison mère est à Montréal et les capitaux sont japonais. C'est un peu compliqué, mais je vais simplifier comme ça.
C'est une société mondiale.
C'est ça, voilà, c'est mondial.
Exactement. Mais en effet, Seedly, vous l'avez évoqué, est une agence assez originale par rapport à ce qu'on voit dans le paysage. Elle a aussi beaucoup bossé pour le cinéma, pour les jeux vidéo. Elle fait des opérations qui sont un peu décalées par rapport à ce qu'on voit. Est-ce que votre arrivée dans cette agence signifie que il y a une volonté de grandir, de trouver des nouveaux clients, sais-je ?
Non, alors s'agir certainement pas. je les en empêcherai bien. Mais ils ont d'abord inventé, avec l'aide des Canadiens, ce qu'on appelle un collectif. C'est-à-dire que l'agence, quand vous allez dans l'agence, vous vous rendez compte, c'est une société multiculturelle, multidisciplinaire et multinationale. C'est-à-dire qu'elle est carrément internationale. Tout ça au même endroit. Donc, effectivement, ça leur donne un point de vue sur les marchés, sur les marques, une compréhension des mouvements de société qui est un petit peu différente de ce qu'on faisait avant. Je dis pas que ça se fait pas ailleurs, je dis que ce qu'on faisait nous avant. Donc, pour moi, c'est un pas très clairement en avant. Ils ont une attitude vis-à-vis des marques qu'ils conseillent aussi, qui est assez humble, en disant les marques aujourd'hui, elles accompagnent, elles ont cessé d'être autoritaires. Donc, il faut expliquer ça. Il y a un rôle pédagogique. Et si je peux les aider, moi, auprès de ces grands annonceurs aussi, à comprendre l'évolution de cette société et à l'appliquer en matière de communication, j'aurais rempli mon rôle. Bah, du moins, mon rôle national, parce que j'ai aussi un rôle international.
Justement, qu'est-ce que vous allez lui apporter du côté international?
Alors, l'ambition de Seedly et de la Akuodo, dont vous citiez le nom tout à l'heure, c'est de faire de Paris une plateforme européenne forte. C'est-à-dire que on est loin de ce qu'on a fait il y a plusieurs années avec DDB, où on avait, et puis d'autres agences du groupe Omnicom, où on avait une agence, un pays à peu près.
Mm-hmm.
Maintenant, on est plutôt sur un regroupement avec une plateforme qui peut travailler pour d'autres pays, des plateformes régionales en clair. Donc là, clairement, l'ambition elle est forte, c'est-à-dire Seedly Paris doit devenir la plateforme internationale de Seedly, bien backée par deux grosses entreprises, une s'appelle Q, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais qui appartient également à Akuodo, et dire on va grandir en France de manière organique. Les équipes de Sylvain et de Johan sont très bonnes pour ça, mais on va le faire aussi par acquisition dans des secteurs bien précis. Et là, j'ai une feuille de route. Il y a trois secteurs, il y en a plusieurs, mais il y en a trois en particulier. Le luxe. Très clairement, Akuodo est très fort au Japon avec des marques japonaises, donc une adresse parisienne, vous imaginez.
Oui, ça fait sens.
Voilà, ça fait sens. La partie design dans laquelle ils sont déjà, avec IDEO, qui est un grand leader international. La partie public affaires. Alors public affaires, c'est très anglo-saxon. Là, oui. En France, c'est beaucoup plus compliqué. C'est les relations publiques, mais au sens business du terme, et lobby. Et puis, également, ce qu'on appelle la communication d'expérience, experiential communication, qui est plus proche de ce que savent très bien faire Johan et Sylvain et leurs équipes, c'est-à-dire la partie e-commerce, e-digital, retail. Voilà.
Et avec tout ça, vous allez chasser les grands annonceurs mondiaux contre Omnicom, Havas
mais, et... Il y a longtemps qu'ils l'ont fait, ouais. Mais pas avec...
Ils m'ont pas attendu.
C'est une agence, je le découvre même tous les jours, ouais. C'est l'agence de KFC en France, ouais. De Kentucky, de Red Bull, c'est la première agence française de Nike, c'est pas rien. Ils ont d'autres marques comme Honda, qu'ils gèrent pour toute l'Europe. Donc,
mais déjà, ils font assez peu parler d'eux quand même. Oui, vous avez de gros clients et en fait, on le sait pas, quoi.
Mais qu'est-ce qu'il était temps. Grâce à vous, voilà. C'est ça, évidemment. Ils ont une chose qui est assez rare dans nos métiers, c'est que leur image est meilleure que leur notoriété. Donc c'est plus facile de faire monter une notoriété que de changer une image. Donc ils ont une bonne image, on va l'augmenter.
Merci beaucoup Hervé Brossard, je rappelle que vous êtes chairman pour l'Europe de Sidley Paris.
Merci à vous.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Avec cette semaine, Simon Tellenbaum de la rédaction de BFM Business. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors je voulais qu'on s'arrête avec vous sur un indicateur qui est toujours intéressant, qu'on a balayé très rapidement la semaine dernière, donc on va approfondir cette semaine. C'est l'édition 2019 de l'Observatoire des slogans. 9000 slogans passés au crible. Et la grande tendance qui s'est détachée en 2018, c'est surtout que le bio est un argument de plus en plus utilisé par les publicitaires.
Et oui, une centaine de slogans créés sur l'année 2018 comprennent ce mot bio, une très forte progression puisque bio entre pour la première fois dans le top 30 des mots les plus utilisés dans les campagnes publicitaires. On parle bien des campagnes en France et c'est une performance selon les auteurs de cette étude car le terme bio dépasse désormais ses frontières naturelles. Il n'apparaît plus seulement dans le secteur alimentation et distribution, ce qui paraît évident, mais aussi dans les boissons, la beauté et l'hygiène. Cette tendance écologique va d'ailleurs au-delà du simple terme bio et on la retrouve dans les termes qui sont apparus pour la première fois dans des slogans au cours de l'année 2018. Végétaliser, par exemple, végétaliser vos rayons, c'est un slogan de Bon Duel. On trouve aussi compost, flexitarien, soja amoureux ou autoconsommation parmi ces nouveaux mots de l'édition 2018. Ce qui est clair, pour aller encore un peu plus au-delà de la préoccupation écologique, c'est que les sujets de société sont de plus en plus pris en main par les marques, avec cette autre tendance de fond autour de l'égalité homme-femme, de l'émergence du féminin dans la foulée de l'actualité MeToo. Ainsi, le mot sexiste apparaît pour la première fois dans un slogan. C'est une campagne qui avait été lancée par la mairie de Paris. Et beaucoup de mots se féminisent, donatrice, postière, entrepreneuse, entrepreneureux qui apparaît pour la première fois dans un slogan de la Caisse d'Épargne. Donc le risque, hein, clairement, pour 2019, c'est qu'après le greenwashing, il y a une sorte de womanwashing qui aille dans nos campagnes publicitaires.
Ouais, puis en même temps, il y a des nouveaux mots, des nouveaux sujets, mais derrière, il y a quand même des slogans d'un grand classicisme aussi. Hein.
Oui, il y a une grosse force d'inertie dans les slogans. Ah. Déjà, si on regarde les trois mots les plus utilisés en 2018, c'est exactement les mêmes que ceux de l'année passée. En l'occurrence, le verbe être en numéro 1, suivi du verbe faire, et le hashtag qui garde sa troisième place, qui moi m'étonne un peu parce qu'on peut le penser un peu
un peu has-been
le hashtag. De nombreux autres mots restent très utilisés, nouveau, prix, bon, vie, meilleur, grand, tous ces mots du top 20 des slogans qui franchement ne sont pas très originaux. Si on regarde en revanche du côté des plus fortes progressions, on a parlé du bio qui était bien placé, mais en réalité c'est un autre mot qui arrive à la première place. Finalement, c'est pas vraiment une surprise quand on le voit, c'est le mot bleu, évidemment, avec l'actualité de la Coupe du Monde.
Ah oui.
Les bleus. Et le mot merci, hein, qui fait un bond en avant dans le classement après la victoire de l'équipe de France. Pour finir, on peut parler de l'usage de l'anglais qui est aussi analysé chaque année dans cet observatoire. On pourrait se dire qu'avec cette tendance à l'écologie, proximité, authenticité, l'anglais pourrait un peu reculer. La langue avait d'ailleurs perdu un peu de terrain l'an dernier, mais non, en 2018, l'anglais reprend des points et est présent dans environ 20% des nouveaux slogans, c'est beaucoup. Et y compris dans des campagnes qui revendiquent l'origine française, les circuits courts, avec par exemple Carrefour et son slogan « Act for Food », ce qui est un peu un slogan paradoxal.
Effectivement.
French washing.
Et moi je retiens quand même soja amoureux, ce sera mon mot à moi pour l'année prochaine.
Oui, c'est joli.
C'est joli, soja amoureux. Merci Simon Tedenbaum.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Et cette semaine, on a choisi de s'intéresser à la communication dans le secteur bancaire. Pour en parler avec nous, Cécile Riffard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la communication et de la marque La Banque Postale. Et puis, Baudouin Chopin de Janvry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur conseil industrie financière chez Deloitte. C'est vrai qu'après la crise financière, il a fallu un petit peu que les banques regagnent en crédibilité. Est-ce que aujourd'hui, ce travail est fait, Baudouin Chopin de Janvry?
Alors, c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que 2 Français sur 3 ont confiance dans leur banque. Ils sont à 84% satisfaits de leur banque, donc
c'est
ça c'est quand même positif, mais ils la recommandent très peu.
Ah ouais.
Très peu, on est dans des taux de recommandation en moyenne qui sont négatifs, mais pourtant ils ne la quittent pas. Ils la quittent à moins de 5%. Donc on est vraiment aujourd'hui dans une situation paradoxale.
Frédéric.
Alors Cécile, vous lancez-vous une campagne justement pour attirer des nouveaux clients et vous choisissez alors un ton assez décalé, l'humour et une voix d'ailleurs qui est assez inhabituelle dans la banque. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on va faire, c'est en faisant rire les gens qu'on va les faire venir vers la Banque Postale, c'est ce qui accroche.
Non, alors le décalage, mais je vais vous expliquer le décalage. D'abord, au départ, il y a une volonté de effectivement attirer, recréer une marque attractive pour en faire un levier de conquête. La Banque Postale a besoin de nouveaux clients. Et le décalage, en fait, il est quand même fondé sur une stratégie qui va au-delà de faire rire. D'abord, il fallait qu'on redonne un coup de jeune à la marque et faire rire et avoir un humour décalé. Ça rajeunit fortement l'image de la Banque Postale qui en avait besoin. L'autre case que l'humour et que le décalage coche, c'est la case de l'émergence. Quand on est une banque publique, on a des investissements publicitaires qui sont quand même pas à la hauteur des gros concurrents. Donc le décalage permet aussi d'émerger. Et puis on est content parce que on donne une bonne nouvelle. D'abord on raconte qu'on est citoyen et on est la seule vraie banque citoyenne. Et en plus on fait sourire. Donc on donne l'impression, enfin on est content avec cette campagne de donner et du sourire et des preuves d'engagement à nos clients et au grand public.
Vous parlez de reconquête de nouveaux clients. C'est vrai que vous le disiez, Baudouin Chopin de Janvry. En fait, les Français changent peu de banque. Pourtant, on a l'impression que l'offre s'est multipliée. Je pense aux banques digitales. Il y a quand même une offre aujourd'hui qui fait que ça devrait être facile, non, de changer de banque?
Ah oui, c'est facile. En plus, avec la loi sur la mobilité bancaire,
oui,
c'est d'autant plus facile. Mais aujourd'hui, on assiste plutôt à une contraction du nombre de clients qui sont multibancarisés. On est passé de 40% il y a 4 ans, où maintenant on est à peu près à 33-34% de clients multibancarisés. Alors c'est probablement lié au fait à l'augmentation des frais de tenue de compte, notamment, et à toute la réglementation sur la connaissance client, qui a fait que les comptes dormants, les comptes secondaires qu'on avait tous un peu quelque part chez nous quand on changeait de banque, et ben on gardait l'ancien compte, et ben tout ça maintenant on les a clôturés. Et on a certes l'émergence d'un certain nombre de néobanques qui ont pris des parts de marché assez rapidement, mais c'est surtout des comptes secondaires et sur des besoins très précis. Et le Français reste encore aujourd'hui très attaché à sa banque. Il reste à peu près entre 15 et 16 ans encore attaché à sa banque principale.
Mais au fond, qu'est-ce qu'ils attendent de leur banque? Parce que la communication des banques est toujours sur ce thème-là. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, on va vous servir mieux, sous-entendu évidemment que celle dans laquelle vous êtes, donc venez plutôt chez nous. Mais c'est quoi l'attente exacte des Français par rapport à leur banque?
Alors déjà, moi, je suis convaincue qu'il y a une attente globale des Français par rapport à leur marque, d'un discours de vérité sur la manière dont elles se positionnent sur leur marché. C'est pour ça que la Banque Postale, nous, on est vraiment revenu aux fondamentaux du caractère public, citoyen de la Banque Postale. Après, ce que les Français attendent de leur banque, je crois que c'est effectivement après la crise de 2008 et des discours assez aseptisés qui ont suivi, c'est de revenir à un discours de vérité sur la vérité en fait du service et du produit bancaire, et puis la notion de confiance aussi extrêmement importante. C'est là où les acteurs historiques dans leur communication ont une carte à jouer, parce que c'est vrai que dans la saturation aujourd'hui du marché et l'éclatement avec les néobanques, il y a un besoin de réassurance sur les fondamentaux et sur la confiance des
acteurs bancaires. Mais ça se voit dans les slogans, on a c'est vous l'avenir pour la Société Générale, toute une banque pour vous c'est le Crédit Agricole, une banque qui appartient à ses clients le Crédit Mutuel. C'est pas un peu paradoxal cette espèce de proximité affichée alors qu'on est dans une ère du digital où peut-être il y a un peu plus de distanciation?
C'est une question de traitement des moments de vie en fait. C'est-à-dire que dans la banque vous avez deux grands moments, c'est-à-dire les moments transactionnels où vous faites un certain nombre d'opérations, ceux-là ils sont digitalisés, ils sont en self-care de plus en plus, et puis vous avez les moments de vie, c'est-à-dire chômage, retraite, divorce, naissance, déménagement, achat d'un bien immobilier, où là vous avez besoin de quelqu'un. Et donc on a cette dichotomie finalement avec à la fois un certain nombre de banques qui répondent à la première problématique qui est je vais faire les transactions le plus simplement possible et vous allez pouvoir les faire chez vous le week-end quand vous voulez anywhere, anytime, any device, pas de problème. Et puis il y en a d'autres, donc ça c'est notamment les banques en ligne, mais qui reviennent pour certaines quand même sur maintenant le slogan c'est pour quand on prend Fortunéo, les gens avant tout. Les gens avant l'argent. Se sentir écouté, ça change tout.
Ça se rejoint quand même. Alors.
Monabank, Fortunéo, vous voyez, ils sont, eux se rejoignent en fait. C'est-à-dire qu'ils sont repartis dans une logique de dire, je communique maintenant sur l'humain. Alors l'humain, certes, à distance, parce que ce sont des banques en ligne, mais ils s'approprient finalement le terrain de jeu de communication qu'avait auparavant, dont le monopole était tenu par les banques traditionnelles, les banques à réseau.
Justement, à propos de banque digitale, vous allez y aller, vous, cette année, la Banque Postale, c'est
oui,
ça?
Oui, tout à fait. On va lancer Ma French Bank à la fin du printemps 2019.
Avec quelque chose de plus axé sur les services, c'est ça, je crois?
Et surtout la mobilité. On va vraiment être en phase avec les usages bancaires d'aujourd'hui. Effectivement, une extrême mobilité et une possibilité d'utiliser sa banque avec son téléphone.
L'idée, c'est d'aller chercher les jeunes, parce que je crois qu'il y a beaucoup de jeunes massivement qui choisissent la banque de leurs parents aujourd'hui.
C'est aller chercher les jeunes actifs, en fait. C'est plutôt les jeunes actifs qui ont besoin de mobilité dans leurs usages. Les jeunes, effectivement, les parents sont quand même très prescripteurs. Donc, c'est pour ça que le positionnement de Ma French Bank sera plutôt un positionnement jeune actif. Et que pour la Banque Postale, il y aura toujours des offres jeunes, avec des prêts étudiants notamment, pour les catégories les plus jeunes de la population.
Merci beaucoup, Cécile Riffard. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication et de la marque La Banque Postale, et Baudouin Chopin de Janvry, directeur conseil industrie financière chez Deloitte.
Merci.
BFM Business, Hebdo.com, comme un chef.
Anaïs Lançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la communication et de la marque Groupe RATP. Pourquoi Groupe RATP? Moi, je croyais que la RATP, c'était la RATP, quoi.
Alors effectivement, la RATP, c'est la RATP, mais pas que. Pour bien comprendre les enjeux de communication de la RATP et donc du groupe, il faut savoir que en fait, on parle d'une entreprise qui compte parmi les leaders mondiaux de la mobilité, puisque on compte parmi les 5 leaders mondiaux, et on fait en fait du transport absolument partout dans le monde. On est présent dans 14 pays sur 4 continents. Pour vous donner une idée, on fait du métro à Manille, du bus à Londres, du tramway à Casablanca, et j'en passe. Et donc nous ne sommes pas en effet qu'à Paris, même si à Paris on est très présent et depuis 70 ans sur un monopole, mais qui va bientôt prendre fin puisqu'il y a une ouverture à la concurrence des réseaux en Ile-de-France. Et plus globalement, la mobilité est un secteur extrêmement concurrentiel qui suppose pour nous une grande transformation du groupe, et évidemment du coup aussi une communication qui va avec, puisque on sait très bien que la communication est un bon levier de transformation. Et donc l'année dernière, on a refait toute notre plateforme de marque Groupe RATP.
Mais justement, vous disiez 14 pays, mais personne ne le sait en fait, que vous êtes dans 14 pays. Enfin, moi, je le découvre en préparant cet entretien, mais vraiment, mais j'imagine que même pour vos collaborateurs, en fait, ça doit être une fierté quand même de faire des trucs à l'autre bout de la planète, d'appartenir à une grande entreprise. En fait, on ne le sait pas.
Bien sûr, c'est une fierté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que évidemment, on est sur deux axes de communication très différents. La RATP dans le secteur de la mobilité, elle est très connue. Mais après, en Île-de-France, on opère sous la marque RATP, donc en B2C. En revanche, partout dans le monde, on le fait en marque blanche, comme le font l'ensemble des opérateurs. Donc là, on était très fort en marque B2C en Île-de-France. Là, il s'agissait de se muscler en communication dans notre approche B2B, qui est celle des élus, puisque ce sont aujourd'hui les élus, ou en tout cas les villes, qui choisissent finalement leurs opérateurs de transport. Et ce qu'on avait envie de leur dire, justement, à ces élus, c'est que nous, on est un grand groupe qui avons beaucoup d'expertise pour faire en sorte que la ville soit la plus durable et la plus intelligente possible. Parce qu'il faut bien savoir que la RATP, c'est du transport, certes, mais pas que. C'est de l'immobilier, puisqu'on a un certain nombre de sites industriels qu'on requalifie, on fait du logement. C'est aussi du commerce. En Île-de-France, par exemple, on est le troisième centre commercial d'Île-de-France avec nos commerces sur le réseau.
Ah oui.
On fait de la connectivité, on fait évidemment de la billettique innovante. Et donc, cette plateforme de marque, elle a justement permis de mettre en avant toutes ces expertises. On a renommé toutes les filiales pour d'abord leur donner une appellation aussi RATP Group. On a fait une campagne qu'on a pu voir dans beaucoup de journaux pour expliquer justement ce qu'est le groupe RATP et son approche. On s'est doté d'une nouvelle signature qui est
la ville de l'avenir,
voilà, pour donner en fait voilà cet éclairage sur ce côté un peu moins connu, je dirais, de l'entreprise.
Merci beaucoup pour votre éclairage, Anaïs Lançon. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication et de la marque Groupe RATP. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.